With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ah non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Ils peuvent connecter leur longue queue poilue à d'autres organismes pour arriver à des extases hallucinatoires. Je parle évidemment des navis, non pas de nos chroniqueurs autour de cette table, quoique en ce milieu d'hiver, ils ne sont pas loin du teint vert des habitants lacustres de Pandora. Pour le reste, je les laisserai vous dire eux-mêmes ce qu'ils font avec leurs poils. Bref, nous allons parler de l'événement cinématographique de la fin 2022, la sortie d'Avatar, la voie de l'eau de James Cameron. Et bonne résolution oblige, nous allons également nous projeter dans l'année 2023 pour vous parler de ces films qui nous font déjà frétiller les rétines. Parce que le cinéma, c'est la vie et c'est pour ça qu'on est là. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tout ce que vous allez entendre est réalisé sans trucage.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Bonsoir, bonjour, je sais pas, on est le jour, on est le soir, on est quand ?
Je ne sais pas quand nous sommes, mais je sais que je ne suis pas truqué.
Mais ouh, êtes-vous la bonne personne ? Bonsoir Arthur.
Bonsoir.
Bonjour Sophie.
Salut.
Et salut Alexis.
Salut Nicolas.
Il aura donc fallu attendre 13 ans pour ça, c'est-à-dire le deuxième volet d'Avatar de James Cameron, La Voix de l'eau. C'est sorti le 14 décembre sur les écrans français, où l'on retrouve Jake Sully et sa chère et tendre Neytiri qui se sont reproduits comme des petits pains. Eux et leurs quatre enfants sont malheureusement traqués par la némésis de Jake, le colonel Miles Quaritch, qui, haha, n'est pas mort, et de retour dans la peau d'un avatar. Allez Simon, vas-y, tu trépignes. Ce film ne t'a pas seulement fait grimper au rideau, c'est peut-être le plus grand chef-d'œuvre du 7e art que tu aies vu de l'ensemble de ta carrière.
Alors, pas du 7e art. Moi, ce qui m'a sidéré,
du 3e.
Je m'attendais à faire face à un morceau de cinéma qui se veuille une proposition puissante, d'autant plus puissante que le cinéma de divertissement américain est dans un état de déréliction qui est un petit peu comparable à la bête somme, soit après un passage des All Blacks, soit après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire pas grand-chose. Et... en fait, non.
Salue nos amis de Saint-Valery-sur-Somme et du Crotoy qui sont à l'écoute et qui vivent dans une très très belle baie par ailleurs.
Et ce n'est pas ce à quoi je fais face. Je fais face à une forme de cinéma qui va peut-être très au-delà de notre conception traditionnelle du cinéma. En cela que on est face à une telle révolution de la grammaire, de la conception de la narration et de comment elle s'incarne, que moi, elle met à bas beaucoup de mes outils analytiques habituels. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis dans mon top 5 de l'année Avatar 2. Non pas qu'il ne puisse pas y entrer, je pense que j'ai encore besoin de 4, 5 ou 6 visionnages pour pouvoir exactement situer le film. Tout à l'heure, on échangeait avant d'enregistrer avec Alexis et il me disait c'est quasiment du cinéma transhumaniste. Effectivement, je pense que c'est un cinéma qui propose à notre œil de voir et d'apprendre à voir via un organe externe surpuissant. Je vais essayer de m'expliquer. Vous avez déjà entendu parler de la question de la fréquence d'image par seconde. Traditionnellement, le cinéma est diffusé en 24 images par seconde. C'est un standard qui a été décidé non pas pour des raisons esthétiques mais pour des raisons industrielles à une époque où la pellicule ça coûte extrêmement cher. Et en gros, on doit se poser la question de quel est le nombre minimum de photogrammes qu'on peut diffuser pour garder tout simplement l'illusion du mouvement. C'est-à-dire que le cinéma, à la base, ce sont des images fixes diffusées à une fréquence qui va troubler notre persistance rétinienne, c'est-à-dire qu'on va créer l'illusion du mouvement. Et en fait, 24 images par seconde, ça n'est pas du tout la meilleure fréquence, la fréquence la plus belle, le mouvement le plus intéressant ou le plus fluide. Ça n'est pas l'idéal, c'est le minimum en termes de fabrication de pellicule qu'on peut obtenir pour avoir une forme de fluidité. Et donc, on le sait, et d'ailleurs Edison lui-même l'avait dit, en gros, le standard intéressant, pertinent en termes de fluidité et surtout de netteté, c'est autour d'une quarantaine d'images par seconde. Peter Jackson avec le Hobbit et puis Ang Lee avec le machin de Billy Lynn Flynn, mais surtout Gemini Man ont travaillé la question plusieurs
fois. Précision sur les titres, remarquable.
Oui, mais c'est un jour dans la vie de Billy Lynn.
Merci,
et Gemini Man, ça pour le coup tu
l'as
bien dit.
Oui, mais très souvent comme je parle extrêmement vite, les gens se trompent. mais très concrètement, précision est mon deuxième prénom et c'est
40
aussi
lettres par seconde.
Et c'est aussi mon nom indien. Non, plus sérieusement, ces deux metteurs en scène ont proposé des œuvres qui avaient ce qu'on appelle le HFR, c'est-à-dire High Frame Rate, un défilement d'images par seconde supérieur aux 24 images par seconde. Ça a été un bide absolu public parce que peu de copies le proposaient, parce que les spectateurs qui ont pu voir les quelques versions du film qui permettaient de les découvrir ainsi ont été extrêmement surpris. Ils ont été surpris pour deux raisons. La première, c'est que quand on... Oui, ben je sais, mon Nicolas, tu pinces comme si tu me demandais de faire un plus petit prépuce, mais c'est que tu veux que je parle moins longtemps.
Néanmoins, j'aimerais bien entendre quelqu'un d'autre, surtout.
Oui, mais je suis un peu contraint pour qu'on pose techniquement ce qui se passe avec le film, d'expliquer un petit peu. En gros, le public a été extrêmement dérangé par ces changements pour une raison toute simple, c'est que quand on démultiplie la fréquence d'image par seconde, on démultiplie et la netteté et le niveau de détail qu'on peut voir. C'est-à-dire que si en amont, en pré-production, on ne pense pas le film de manière à ce que ce ne soit pas gênant de voir beaucoup plus de détails, on donne ce qui a été appelé le soap opera effect. C'est-à-dire on a l'impression de voir un truc en plastique. Et pour cause, parce que les décors, les costumes, tout ce qu'on filme d'habitude est fait pour être vu en 24 images par seconde. Ça, c'est une première chose. Le génie de Cameron tient en trois éléments. Le premier, c'est que... Oui, je t'interdis de soupirer comme ça, même si tu le fais loin du micro et que les gens ne l'entendent pas. Le premier, c'est que comme on est en 48 images par seconde, quand un personnage bouge vite, vous avez toujours vu, dès qu'il y a un travelling très rapide, dès qu'il y a quelqu'un qui court, au cinéma, ça devient flou. Ici, ça n'est plus le cas. Premier élément. Deuxième élément, tout simplement, vu que tout devient net, il va y avoir une nouvelle zone pour créer du hors-champ, pour créer du mystère, pour créer du flou, justement. Donc, Avatar va être une réinvention totale et perpétuelle, et dans la mise en scène et dans l'écriture, de là où se situe le mystère du cinéma. Ce qui en fait un truc assez incroyable. Et enfin, il y a une troisième chose qui est une pure percée poétique, et ce qui fait que, après Alien, on tient enfin l'autre très grand rôle de Sigourney Weaver, c'est qu'on a poussé tellement loin la performance capture que Sigourney Weaver va jouer une adolescente. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a cet élément de poésie incroyable qui consiste à avoir une femme de 70 ans jouant une adolescente d'une autre espèce qui est le personnage principal du film, le personnage central, symboliquement celle qui amène le film extrêmement loin, c'est Kiri, et qui est... Et alors je vois que tu respires un petit peu comme si tu avais avalé une ventoline entière.
Laisse-nous, on parle par télépathie. Vas-y. Avec Nicolas, alors.
Je t'écoute, je ne dis rien. Voilà. De toute façon, je suis pas là pour donner mon avis.
Et donc, tout simplement, moi, je suis face à un film qui réinvente littéralement le règne symbolique du cinéma américain, qui réinvente la narration, la question du hors-champ, la question de la netteté, et donc la question de moi, mon regard de spectateur, et qui fait tout ça dans une geste opératique et épique, une forme d'odyssée qui l'amène pour moi au niveau de récits tels que l'Iliade et qui véritablement en fait un carrefour des arts, un carrefour des représentations et des conceptions. Moi, je suis face à quelque chose que je n'ai jamais vu, jamais appréhendé et d'absolument gigantesque.
Alexis.
Ouais, je serais un peu moins enthousiaste que Simon parce que
c'est-à-dire
que
pour plus enthousiaste, c'est compliqué.
Oui.
C'est-à-dire que monter au-dessus de ça, c'est quand même difficile.
Non, mais je trouve qu'il y a dans le film de Cameron, et c'est dommage à mon sens parce que ces défauts-là n'existaient pas dans le premier, je trouve qu'il y a des vrais problèmes d'écriture. Il y a des vraies trajectoires dramaturgiques que j'ai un peu de mal à comprendre et qui surtout, je trouve, sont, et je parle plus particulièrement des 20-30 premières minutes du film, assez mal introduites. Néanmoins, c'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus, et je pense qu'en plus sur la question de l'écriture, Sophie aura beaucoup plus de choses à dire que moi. Mais moi, je rejoins ce que dit évidemment Simon sur la forme du film, et je préfère évacuer d'emblée ce qui est malheureusement le cœur des débats actuellement sur les réseaux sociaux autour de Avatar 2, c'est cet éventail technologique que mobilise Cameron, donc en l'occurrence la 3D à haute fréquence d'image. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est laid? Moi, je trouve que cet argument-là, fondamentalement, n'a pas de sens, parce que la question qu'il faut se poser tout de suite quand on est confronté à ce genre de technologie, et c'était déjà le cas avec Ang Lee, c'est est-ce que ça sert le propos du film ou pas? Si ça ne le sert pas, de fait, c'est juste une bande démo technique de 3h10 et ça n'a aucun intérêt autre que l'aspect technique. Si en revanche, ça sert le propos du film, là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est effectivement, d'un point de vue strictement factuel, face à une révolution du médium cinématographique, et pour moi, c'est le cas. J'en tiens pour exemple, un élément parmi d'autres que la technologie mobilisée par Cameron va mettre en valeur, la planète Pandora est traversée, et ça on le sait depuis le premier film, par une force vitale, une énergie un peu mystique, un peu insaisissable, que les Na'vi ont placée comme épicentre de leur spiritualité, qui est donc leur divinité, Eywa. Et cette divinité-là, contrairement à nos divinités monothéistes terriennes à nous, elle a un impact concret et visible sur l'écosystème, sur la biosphère de la planète. Et bien, si on n'a pas une forte densité de particules, un relief des peaux, un relief de la végétation qui est accru, si on n'a pas un sentiment en fait de vivacité globale qui est traduit par l'utilisation du HFR et de la 3D, et tout particulièrement Dolby Vision, j'ai pas encore eu l'occasion de voir le film dans ce format, mais je sais, pour avoir vu le premier dans ce format, que ça va être une expérience incroyable. À partir de ce moment-là, en fait, on sent la présence de cette force vitale-là, parce que précisément, Cameron mobilise des technologies qui ne sont là que pour accroître le pouvoir de représentation visuelle et sensorielle de son film. Donc juste pour cet argument-là, la partie strictement technique du film, à mon sens, est totalement validée et j'y vois une intention d'auteur très forte. Maintenant, ça n'enlève rien aux quelques réserves que j'ai sur l'écriture et au fait que, et c'est un peu ironique parce qu'il y a un dialogue dans le film, à un moment où on parle justement de la voix de l'eau, qui est donc un concept spirituel pour les Na'vi qui habitent à proximité de l'océan, on nous dit « la voix de l'eau n'a ni début ni fin ». Moi, j'ai l'impression que Cameron inconsciemment nous parle un peu de son film, qui je trouve manque d'un démarrage vraiment calibré, vraiment solide, et manque d'une conclusion à la hauteur de tout ce qu'il a mobilisé comme enjeu pendant 3 heures. Mais si je mets ça de côté, c'est un spectacle absolument saisissant, et surtout, et pour moi c'est quelque chose qu'il faut valoriser à l'heure où le cinéma populaire de divertissement est en train de se casser la gueule de partout, c'est une expérience cinématographique absolument dingue, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu un film comme ça, et peut-être même que Cameron a réussi ce que beaucoup de cinéastes ont essayé avant lui sans jamais y parvenir à 100%. Il a réussi, je pense, à tracer pour la première fois une passerelle artistique solide et tenable entre le 7e art et le 10e, qui est le jeu vidéo. Et ça, c'est vraiment pas rien. Parce que oui, il y a plein de gens qui disent, et je sais que tu en fais partie, Nicolas, on dirait une cinématique de jeu vidéo. Eh ben ouais, on dirait une cinématique de jeu vidéo. Bien sûr qu'on dirait une cinématique de jeu vidéo, et c'est justement là qu'est l'intérêt du film. Quand même, le jeu vidéo découle du cinéma. Donc ces deux arts qui ont une forte parentalité convergent dans une seule œuvre unique. Ça, pour moi, c'est vraiment super important, quoi.
Arthur.
Alors, j'ai adoré le film. Je le trouve immensissime. Mais j'ai peut-être encore plus de réserves qu'Alexis. C'est intéressant. Je crois qu'on va crescendo vers du moins bon et Sophie se fera la pierre angulaire de tout ça. Moi, je trouve le film est formellement révolutionnaire, que c'est quelque chose, effectivement, que je n'ai jamais vu, que je ne comprends pas, qui déconcerte. Le côté jeu vidéo est quelque chose qui m'a un peu dérangé, mais c'est pour le coup parce que je n'ai pas été habitué à ça. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure, Simon, du soap opera effect. Cet effet télévisuel qui rajoute des images entre les 24 images par seconde pour rajouter de la fluidité dans le film continu. C'est ça, le soap opera effect.
Pas exactement. En fait, le soap opera effect, c'est, je le dis très rapidement, en gros, comme on a plus d'images, on a plus de netteté. Et en fait, traditionnellement, les accessoires, les décors, les couleurs qu'on utilise pour faire du cinéma sont faits pas pour ce niveau de netteté, sont faits... on l'air faux. Si vous allez sur un tournage, que ce soit de série ou de film, etc., ce que vous allez voir, les décors ont l'air faux. Mais une caméra qui filme avec ses capacités de 24 images par seconde ne va pas capturer du faux. L'idée, c'est de dire, oui, quand on augmente la quantité d'images par seconde, tout d'un coup, le décor ressemble à un décor.
Bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est un effet qui est très télévisuel, et quand on voit des images purement numériques avec cet effet-là, forcément, ça rappelle le jeu vidéo. C'est pas ça qui m'a forcément dérangé. Dans la technique, moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est que je n'ai jamais vraiment saisi pourquoi, d'un seul coup, Cameron passait du 24 à du 48 images par seconde. En fait, il alterne toutes les 30 secondes à 2 minutes, et je ne comprends jamais vraiment pourquoi, sachant qu'en plus, quand c'est sous l'eau, je trouve ça d'une fluidité assez exemplaire, mais quand c'est sur Terre, je trouve que ça fait très faux, et je comprends le propos hein, de ça, mais par contre, pourquoi toutes les 30 secondes ça change, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc ça me déconcerte. Par rapport à l'écriture, moi, il y a un propos que je trouve très beau, c'est que le premier Avatar nous proposait un monde, une mythologie, un univers, une faune, une flore, et que là, il se dit, bah, je vais refaire la même chose. C'est-à-dire qu'on est obligé de voyager, d'aller à un autre endroit de Pandora, je vais vous présenter une nouvelle faune, une nouvelle flore, un nouvel univers. Et ça, je trouve ça assez remarquable, sachant que je n'avais pas vu le premier Avatar en 3D, donc je n'avais que des suppositions de ce que pouvait être en 2009, cette révolution-là. Et là, pour voir le travail effectué sur l'immersion dans l'image, c'est assez remarquable. Et j'aime bien l'idée que, plus que sur le premier, Cameron prenne le temps d'exposer parfois longuement des séquences quasi mutiques où on est juste sous l'eau à découvrir une baleine, à juste s'immerger dans ce récit-là. Moi, je trouve ça assez fascinant. Par contre, sur l'écriture, j'ai des gros problèmes. J'ai des gros problèmes sur... Alors, les personnages féminins, je vais laisser ça à Sophie. J'ai un gros problème sur le petit Tarzan. Spider, ah, là...
Il s'appelle Spider, ouais.
Qui est horriblement mal écrit et qui a
le
tout
rasta
un...
Le rasta blanc, littéralement.
Littéralement, le rasta blanc. C'est Tarzan, hein. C'est vraiment Tarzan.
Oui, c'est Tarzan.
Hein. Et qui a un arc un peu de rédemption qu'on ne comprend à aucun moment et qui n'a aucune attache émotionnelle avec le spectateur. J'ai pleuré deux fois devant le film. Hein. Jamais via Spider, où en fait, je me suis arraché les cheveux en disant « Mais putain, t'as un film qui est pas loin d'être parfait. Pourquoi t'as écrit ce personnage comme ça ?» Donc voilà, je suis un peu la Suisse entre deux camps. Je trouve le film est quand même vraiment remarquable et important. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, un film important. Mais pour moi, ce film l'est. Il n'est pas parfait. Et c'est dommage parce qu'il est quand même tellement impressionnant sur plein d'aspects qu'il l'aurait pu l'être. Et tu te dis, en 13 ans, alors c'est un peu faux dire en 13 ans il a fait que ça, parce qu'on sait très bien qu'en fait il a écrit les 4 suivants, qu'il a tourné le 2, le 3 et une partie du 4 en même temps, qu'il a quand même révolutionné la caméra, parce qu'il y avait déjà des caméras qui tournaient à 120 images par seconde, mais lui il a adapté avec sa caméra qui filme en 3D et qui pouvait filmer sous l'eau, parce qu'il y a des séquences qui sont filmées sous l'eau. Bref, ça a pris du temps, je le comprends, et je trouve ça objectivement superbe. C'est dommage de passer à côté de 2-3 trucs qui font que c'est un peu raté.
Sophie. Ouais, je ne dis rien, je vous laisse parler pour le moment et ensuite on va alimenter le débat.
Moi je suis très déçue par Avatar 2, pas que j'ai une appréciation particulière du 1, pourtant je lui ai redonné une chance et je l'ai vu en conditions Dolby, très belle aux États-Unis, dans une magnifique salle, dans les conditions parfaites. Et
aux États-Unis, c'est le côté chic un peu.
Ça a sa petite importance parce que j'avais pas de sous-titres. Et où je me suis dit, ok, ça va créer une immersion différente que de devoir lire les sous-titres en 3D. Enfin, en fait, c'est plus pour ça. Mais je l'avais pas revu depuis sa sortie en 2009. Et j'avais plein de réserves sur notamment une forme... C'est des critiques qui reviennent souvent, hein, mais je trouve qu'il y a un côté white savior qui me dérange beaucoup dans le 1. Bref, j'ai plein de réserves sur le 1, mais quand je l'ai revu, je me suis dit, ok, je lui reconnais une chose, c'est comment je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas parce qu'il y a dans sa narration, un peu comme il avait réussi à me séduire avec, par exemple, Titanic, qui est aussi un film très long, sur une narration extrêmement active et qui vient toujours te chercher. Dans Titanic, ça peut être pour le côté gros bateau qui se casse la gueule, ou ça peut être pour l'histoire d'amour, ou ça peut être pour le côté social. Et en fait, dans Avatar, il y avait déjà ça qui était, bon, bah ok, je donne à manger à ceux qui aiment de l'action, à ceux qui vont aimer le côté insertion dans une nouvelle forme d'espèce, quelque chose d'un peu plus documenté. Et donc, sans aimer Avatar 1, je reconnais des qualités d'ordre de divertissement pur. Et donc, sans y aller de manière active et enthousiaste voir Avatar 2, je me dis, au moins, je sais que je m'ennuierai pas. J'ai au moins cette attente-là. Bah, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je trouve que le film est fondamentalement beaucoup trop long et c'est un peu gênant. Et surtout, moi, j'ai un gros souci, c'est que Avatar 1, pour moi, même si je trouve que les personnages féminins sont assez caricaturaux parce qu'ils ont ce côté grande pleureuse qui me gêne beaucoup, elles sont un peu hystérisées. Et donc, dans une nouvelle société qu'on essaye de détacher des codes européens d'émotions ou autres, là, j'étais un peu gênée par la surexploitation du pleur et du cri. Mais malgré tout, c'était une société matriarcale bercée par une force féminine et où les femmes étaient aussi des guerrières et des actives, des vraies actives. Bah là, il y a quelque chose qui me gêne fondamentalement dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire que parmi tous les enfants, on a une fille adoptée, une petite pas adoptée et deux garçons aînés. Et en fait, je suis gênée parce que les deux garçons aînés sont traités d'une telle manière qu'en fait, j'ai tendance à les confondre et que les filles n'ont pas de vraie participation active dans la narration, selon moi, parce que bon...
Là, tu es dur quand même.
Mais non, je trouve qu'elles ont leur propre axe qui n'est pas du tout à la hauteur de ceux des garçons. C'est-à-dire que pour moi, le personnage principal du film, c'est le cadet, du coup, c'est le deuxième fils. C'est celui qui fait des conneries. C'est l'ado. Ouais. C'est pas celui qui correspond au schéma patriarcal. Ah, et surtout...
Et pour cause.
Non, mais moi, ce qui me gêne, c'est que Neytiri, qui était quand même une putain de guerrière, bah là, aujourd'hui, elle n'est plus caractérisée comme une... maman.
Bah et non, justement.
Bien sûr que si, Simon.
Bah en fait, c'est que quasiment tous les personnages féminins importants soit sont enceintes, soit mères. Et je trouve qu'en fait, il a reproduit un schéma hétéronormé, caricatural, et où tout repose sur la filiation. Il y a les garçons, ils veulent être comme papa, ils veulent être des guerriers, ok. Donc
et des soldats par ailleurs. Hein.
Et des soldats par ailleurs. Ensuite, on a celle qui est adoptée, qui ne peut se poser la question que de la maternité biologique, et donc rejeter complètement la cellule familiale différente pour revenir à la filiation. Et pareil pour, on va l'appeler le petit Tarzan.
Ça me va, petit Tarzan. Ouais.
Le petit Tarzan qui, pareil, ne peut pas accepter une famille autre qui pourrait être dysfonctionnelle pour lui pour aller retourner encore vers un lien filial extrêmement classique et archétypal.
Bah, ça, pour le coup, il lutte contre. Mais c'est mal fait, mais il lutte contre.
C'est quand même très, très mal écrit.
Bah, c'est quand même très, très mal écrit. Et j'ai beaucoup de mal parce que bah, je trouve que les axes sont clichés et surtout extrêmement empreints de... On a voulu se détacher de toute forme de projection de société moderne pour revenir à quelque chose un peu plus nature ou tribu un petit peu différente. Et en fait, je trouve qu'on est dans la reproduction de schémas clichés où on ne peut se projeter que par notre propre référentiel blanc qui me gêne énormément.
Alors, il y a plusieurs choses qui se collisionnent dans ce que vous dites. C'est-à-dire que ce que j'entends de Simon, d'Alexis, même d'une certaine partie d'Arthur, c'est quelque chose dans la transformation du rapport à l'image, c'est-à-dire de la technologie. Et de ce que j'entends de chez Sophie, c'est les thématiques abordées. Et on parle assez peu, et c'est une critique qui est faite généralement au film, d'un scénario un peu faible. C'est-à-dire d'un scénario qui est reproductif un peu du premier, qui n'apporte pas beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations, et qui reprend à peu près les mêmes enjeux en les transposant de la forêt à la mer. Moi, ce sur quoi j'aimerais vous entendre, et parce que c'est moi, je pense, quelque chose qui a été compliqué pour moi pendant la production, parce que j'aime pas énormément le film, c'est que je ne sais pas ce que je regarde. La nature des images que je vois n'est plus quelque chose d'identifiable pour moi. J'ai l'impression de voir une cinématique de jeu vidéo.
Et c'est grave.
Mais ça me gêne parce que c'est justement la valeur. Parce que je ne peux pas l'identifier, c'est bien que tu aies fait quelque chose de nouveau. Parce que je trouve ça devrait te stimuler.
Mais non, ça me stimule pas parce que je trouve ça moche en fait.
Ah oui, non, mais c'est autre chose. Là, tu vois, on retombe sur un truc d'affect individuel.
Non, je trouve ça moche. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est en dehors. C'est-à-dire que finalement, la prouesse technique déborde ou surpasse la question narrative. Or, quand on regarde ce cinéma de divertissement qui est là pour nous raconter une histoire, qui a en plus une ambition un peu politique, un peu écologique, etc. Qu'est-ce qui reste de l'histoire? Et j'ai l'impression que la nature du changement et de la transformation de l'image finit par laisser de côté ce qui est l'essence de ce pourquoi on veut aller au cinéma et de ce que Sophie disait tout à l'heure, c'est-à-dire du divertissement, c'est-à-dire de raconter une bonne histoire. Et l'histoire, pour moi, dans Avatar 2, elle est absolument ratée. C'est d'un ennemi total, c'est d'un conformisme, voire limite relativement conservateur dans la façon dont c'est dépeint. Et donc, je trouve qu'il y a un dissensus, ou en tout cas une vraie question sur ce qu'est la nature de cette image-là par rapport à ce que ce monsieur, ce réalisateur, veut nous raconter.
Je laisserai Simon t'attaquer sur plein d'aspects de ce que tu viens de dire. Moi, il y a juste un truc qui me saute aux yeux. Je trouve qu'une des plus grandes faiblesses du film, c'est vraiment son scénario. Hein. On est d'accord.
C'est quand même un problème majeur.
Mais tu ne peux pas dire qu'il n'en raconte rien. Tu suis au moins 5 arcs de personnages. Chaque enfant a une direction, un arc narratif, une construction du personnage différent. Mais peut-être, mais tu peux pas dire qu'il n'en raconte rien. Pour le coup, ce n'est pas vrai.
Alors rien de nouveau en tout cas.
Non, ça, à la limite, je peux l'entendre. Mais par contre, quand on suit le rôle du père, quand on voit la mère qui essaie de s'intégrer alors qu'elle ne veut pas quitter son foyer, qu'on voit l'ado qui essaie de justement dépasser les limites de limites que pose le père, quand on voit l'adolescente jouée par Sigourney Weaver qui s'interroge sur qui elle est et qu'est-ce qu'elle est dans ce monde-là, quand on voit le couple de Kairi Béin, j'ai pas le nom, mais tu vois, enfin, pour le coup, il y a plein de personnages qu'on explore. Donc, pour le coup, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de scénario. Que ce soit surfait, mal fait, pourquoi pas, je suis pas d'accord, mais pourquoi pas. Mais par contre, tu peux pas dire qu'il y a rien, ça c'est faux.
Après, des fois, moi c'est un peu ça qui m'a gênée, c'est que c'est bizarre, normalement je m'attendais pas, je l'ai dit, à m'ennuyer, mais des fois la surcharge narrative est quelque chose qui cause un ennui très fort chez moi. Et là, je trouve qu'en fait, il y a trop d'axes qui se mélangent, qui enlèvent beaucoup d'empathie, surtout qui empêchent de creuser chaque axe.
Mais du coup, vous vous contredisez là, tous
bah
les
non.
deux.
Non, on dit à peu près la même chose.
Ah bah, toi, tu dis qu'il se raconte rien et toi, tu dis que ça raconte trop.
Non.
Oui,
alors,
mettez-vous d'accord. Parce
non,
que,
c'est un
non,
peu
non,
ça que
non,
vous
non.
avez dit.
Alors, non,
c'est-à-dire
pas du tout.
Un axe. Aucun axe n'est fouillé.
On va vous faire la tempête.
Bout,
hein,
non, mais un axe narratif n'est pas forcément genre quelque chose de profond. Tu peux avoir genre 600 axes narratifs en même temps dans une série et être très creux parce que le survoler. Moi, en effet, je trouve que ça ne raconte rien.
Pour rebondir sur ce que dit Sophie, par exemple, l'axe du personnage qui est donc interprété par Sigourney Weaver, qui est donc censé être sa fille, etc. Ben, je veux dire, c'est nul, non avenu, ça n'intéresse personne. Ça, c'est juste un petit motif à un moment donné du
dans
film.
On sent que t'es né à Paris, quoi.
Ah non, mais vraiment, enfin, je veux dire, ça ne raconte quoi?
Quel quoi? Mais quel rapport?
Il dit que t'es un urbain.
Mais parce que je suis un urbain, parce que je connecte pas avec cette espèce de faux arc maltraité, parce qu'on veut avoir une sorte d'axe féminin avec ce personnage.
Non,
qui
mais
ne,
parce
qui
que
ne raconte rien, qui n'est pas traité. Quoi.
Mais l'axe féminin, il traverse absolument tout le film. On a un père, et c'est
on a
une...
un père et un militaire en face.
Ouais,
c'est deux,
et c'est une réplique.
C'est deux paires de couilles qui s'affrontent, et c'est le
justement
juste
pas
le fil de ce film du début à la fin.
Justement pas. Et on a un père qui ne cesse de dire, un père, c'est là pour protéger. Et le film va montrer, et de manière ô combien terrible, que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Et il va y avoir à partir de là deux ressorts narratifs de la radicalité et du combat dans le film, que sont Neytiri et j'ai mangé le nom du personnage qui est interprété par Kate Winslet.
Parce que forcément on ne s'en souvient plus parce que tous les personnages se mélangent.
Ne sois pas de mauvaise foi, je viens de dire son nom juste avant que tu finisses la phrase, elle s'appelle Ronald.
Oui, c'est parce que toi t'as une meilleure mémoire que Simon, mais en vrai on se souvient pas
du
nom du
personnage. J'ai pas de mémoire, je
vous mets au défi de citer le nom des quatre enfants.
Alors il y a Kiri, il y a Neteyam, il y a Loak et j'ai oublié la petite dernière, mais elle pour le coup est un personnage tertiaire.
Voilà, et toi tu as vraiment beaucoup de mémoire et tu te souviens de 3 sur 4.
Ça commence par un T.
Mais attends, et donc c'est intéressant que tu veuilles faire diversion, et en même temps je te comprends, puisque le film va traiter de l'échec du masculin total, de l'échec de cette logique, et il n'y a que deux dialogues entre deux radicalités dans ce film, qui sont le personnage de Winslet et le personnage de Saldana, et c'est finalement Neytiri qui va être le récipiendaire et celle qui va décider d'aller en rupture et d'aller contre. Et elle va contre le récit, contre sa logique interne, et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas à Hollywood, qu'on ne voit pas dans des blockbusters et qu'on ne voit même pas dans des films indépendants. Je note d'ailleurs qu'en plus vous avez détourné un message du film d'une manière assez scabreuse qui consiste à dire « elles sont mamans, punaise, on a une Valkyrie enceinte qui va combattre enceinte et on a justement une discussion entre deux femmes sur comment est-ce que moi je combats, moi qui ai un rapport à ce que c'est que d'être enceinte. » Tandis qu'on va interroger...
Attends, l'affiche de Kill Bill 2, c'est elle enceinte avec un sabre, c'est pas nouveau non plus.
C'est une affiche, c'est pas un film. Et donc...
Non mais je suis désolée, mais c'est pas la première fois qu'on voit un personnage genre être justement... Même dans Juno, ils font des rêves dessus sur l'idée que genre...
Est-ce qu'on est obligé de parler des films pro-vie pour se comparer à ça, enfin...
Ils parlent dans Juno, de l'idée de l'héroïne qui est décuplée parce qu'elle est enceinte, genre, et pas de Juno, genre dans des BD ou dans autre chose. Genre, c'est pas nouveau, genre c'est pas
c'est
la première fois.
Et c'est ça parce que justement, le film te montre qu'elle est limitée et que c'est Neytiri qui va être une vraie combattante, une vraie rebelle et que justement...
Mais tu viens
elle...
te contredire.
Ah bah, pas du tout. Je te dis que à la fois, on pose cette question-là, on représente cette forme de combattante et de femme et de guerrière et que justement, on n'est pas dans un espèce de discours simpliste qui voudrait qu'on mette en avant cette femme enceinte et oh là là, c'est super beau. La grande radicalité viendra de Neytiri qui se rebelle contre tout, envers et contre
tout. Moi, je, malgré l'amour que je porte à ce film, je peux pas te suivre sur ce chemin-là, Simon. Déjà, parce que moi, j'ai un problème mais qui date pas d'hier, hein, avec James Cameron, qui est que précisément, dès lors qu'il essaye de développer une féminité émancipée, qui est un sujet qu'il travaille, hein, qu'il travaille depuis très longtemps, il va forcément tomber dans un travers ou un autre. Le premier étant écrire des personnages masculins, en tout cas au caractère masculin, pour ensuite les faire interpréter par des femmes, exemple Sarah Connor dans Terminator 2, soit il va tomber dans l'autre travers qui est de ramener la femme à la caractérisation la plus évidente de la féminité dans notre société, qui est la maternité.
Ou l'amour dans Titanic, enfin, tu vois, genre le côté
non,
mariage.
Parce que Titanic, c'est vraiment à part et c'est vraiment une écriture de femme. Bref.
Bon. J'adore Titanic.
Non, mais je suis désolé, mais pour moi, Titanic est arrangé, même si c'est moins évident, est arrangé dans la même case que Sarah Connor dans Terminator 2. Parce que qu'est-ce que, au-delà de l'amour que Kate Winslet porte à ce personnage, et qui n'est pas un amour corrélé à des questions sociales, qui justement est un amour complètement décorrélé de ces questions sociales.
Elle tombe like your French girls.
Non, mais elle tombe amoureuse de lui, amoureuse de lui, fin de l'histoire. Mais qu'est-ce qui motive l'émancipation de ce personnage au-delà de l'amour? C'est qu'elle voit dans la liberté de ce mec-là, qui est certes un prolétaire, mais avant tout un homme, donc un indépendant dans la société du début du XXe siècle, elle voit dans ce personnage masculin quelque chose qu'elle ne peut pas avoir. Donc on a un personnage féminin qui fantasme un attribut masculin. Dans Avatar 2, pour moi, il y a à nouveau ces deux caractérisations qui, moi, sont des caractérisations qui me fatiguent. C'est que d'un côté, on a effectivement les personnages de Neytiri et de Ronald qui sont des personnages qui m'intéressent, hein, pour qui j'ai de l'empathie, mais qui sont malgré tout caractérisés avant toute chose par leur position de mère et de matriarche. Et on a le personnage d'Eddie Falco qui est un personnage masculin interprété par une actrice. C'est encore et toujours les mêmes problèmes de l'écriture de Cameron qui ressurgissent, donc là-dessus je peux pas te suivre.
Et moi je rajouterais juste par rapport à ce qu'a dit Simon un truc qui est que même si je pourrais souscrire ce que tu dis parce que j'y avais pas vraiment songé comme ça et je trouve ça extrêmement intéressant, le problème c'est qu'il y a un truc qui s'appelle les interviews dans lesquelles les cinéastes parlent de leurs œuvres. Et James Cameron a dit en interview qu'il était extrêmement fier d'avoir fait un personnage d'une femme enceinte badass et qu'il était le premier à l'avoir fait. Et du coup,
il
ça
a dit
contredit...
que le dernier Terminator était bien. Donc voilà, les interviews, c'est de la merde.
Comme son film.
Je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais pour poser une sorte de maître étalon sur ce que vous êtes en train de dire, le test de Bechdel, en fait, c'est simple. Je veux dire, il n'y a pas un seul personnage féminin dans ce film qui ait une trajectoire autonome. Tous les personnages féminins, enfin déjà, n'ont pas d'arc principaux, puisque l'arc principal, c'est encore une fois Jake Sully contre son ennemi qui est à peu près le même qu'avant, et donc ça va vraiment...
Ah bah non, justement.
Ah bah si, c'est le même, puisqu'il a juste changé de... Enfin, en vrai, alors, tu veux que je te provoque vraiment? Ce qui est rigolo,
Provoque-moi,
quand je vois le colonel machin, parce que je me souviens même plus de son nom...
Quaritch.
Voilà, ça peut te dire à quel point ça m'intéressait. Revenir dans un avatar, ça me fait exactement le même effet que dans le dernier Star Wars quand il ressuscite l'Empereur. La même chose. Allez hop, dans l'introduction, on y va et on te remet le gros méchant.
Alors, je vais
qui
dire
était
un
mort
truc,
mais qui revient.
Dur. Alors,
non,
je vais dire un truc,
vrai,
je vais dire
c'est
un
la
truc,
même chose.
Je vais dire un truc, il m'a vraiment provoqué, mais Dieu sait qu'il n'est pas dur. Non, ça marche pas.
Non, moi je trouve dur quand même.
Non, mais on n'invente pas de nouvel antagonisme.
Mais
on recrée
enfin,
exactement.
On assume le titre du film. On est dans cette logique hindoue de la réincarnation et dans l'avatar. Et dans qu'est-ce que c'est qu'une actrice humaine.
C'est l'hindou pour les nuls, Simon. Enfin, je veux dire, ça suffit quand même.
Moi je suis nul,
c'est comme
j'aime
l'écologie
bien
pour les nuls. Enfin, franchement, c'est exactement la décalque du scénario du premier,
mais
refait dans l'eau.
Non, ça pour le coup, c'est pas vrai.
Excuse-moi.
Mais non, il y a
j'ai dit que je donnais pas mon avis.
Il y a des cétacés, mi-baleine, mi-langouste.
Mais quel
mi-baleine
bien être ton avis d'ailleurs dans ce film.
Avec quatre yeux, c'est super original.
Non, pour le coup, il y a un truc qu'on peut pas reprocher au film. Là, tu l'as fait plusieurs fois que tu le dis. Moi, ça me fait tiquer. C'est pas un copier-coller du premier.
Ah, loin de là.
Ah, vraiment pas.
Loin de là.
Non, mais j'entends toutes les critiques qu'on peut émettre là-dessus, mais par contre, c'est vraiment pas
déjà,
la même chose.
Il y a quand même entre le premier et le deuxième film, et c'est pour moi la différence la plus notable entre les deux scénarios. Il y a un changement de focalisation. C'est-à-dire que fondamentalement, même si Jake Sully et Neytiri sont très présents dans l'histoire, et je pense qu'on sera à peu près tous d'accord là-dessus pour le dire.
Neytiri est quasiment pas présente, elle n'arrive qu'à la fin pour sa scène d'action.
Elle n'a aucun lien et aucun poids dans l'enjeu dramatique du film, d'implication dramaturgique, je suis d'accord avec vous.
Aucun.
Il n'empêche que sur trois grandes de film, elle est à l'écran pendant deux heures, donc elle est quand même très présente.
Oui, mais elle est un
la
pur
question
motif.
N'est pas là.
Elle n'a pas d'enjeu, elle n'a pas d'arc narratif, et c'est un personnage féminin, c'est important, Alexis.
Quelle est la focalisation, quel est le point de focalisation d'Avatar premier du nom? C'est un être humain, Jake Sully, qui va. Symboliquement parlant, et c'est un peu lourdeau peut-être, moi en l'occurrence je trouve ça plutôt intelligent, c'est un garant, un représentant d'une force coloniale qui va se débarrasser de son identité pour justement se débarrasser de son héritage colonial.
Oui, mais ça c'est passionnant.
Oui, mais
et c'est ce qui fait la valeur du premier.
Mais ça c'est le point de focalisation.
Mais là c'est totalement perdu.
Laisse-moi finir. C'est le point de focalisation du premier, le deuxième te dit, le point de focalisation c'est les enfants. Donc déjà, il se débarrasse de Jack Sully. Parce qu'en vérité, Jack Sully, il n'a une importance. Il a une importance de héros de film d'action. C'est mais vrai. Il ne fait pas avancer l'intrigue. C'est même le contraire. Il a
c'est un film mascu total. C'est un film mascu d'un mec qui veut lutter
mais
contre un autre mec. Et qui ne parle que de famille. Et qui ne parle que de ses deux enfants. Plutôt de ses garçons. Parce que les filles, on en a globalement rien à foutre. Et qui leur dit « Yes, sir ». Et avec lesquels il a un rapport militaire. Enfin, oui. Vous ne vous rendez pas compte que ce film est un film réac total du début à la fin. Quoi.
Et comment ça peut être un film mascu alors que ça te dit qu'il a tort, qu'il provoque la mort de
certains membres de sa famille,
et qu'il est montré comme justement la part humaine en lui est la part humaine mortifère, destructrice, et qui doit être détruite.
Mais heureusement que genre, le film vient le racheter en disant que...
Pas le racheter, le détruire.
Non, le racheter, c'est-à-dire que la scène de fin, genre justement, où on le voit bébé et tout ça, et où il reparle, genre en fait, quand il repart dans ces espèces d'anémones de mer lumineuse, genre en fait, finalement, c'était sa destinée de revenir là. Il parle justement du fait qu'il y a un cycle et que genre il était fait pour partir là et pour avoir cette destinée-là. Genre, je l'ai vu ce matin, hein, tu vois, genre au moment où il est dans cette espèce de champ, il dit que de toute manière, sa destinée, du coup, vu qu'il y a quelque chose d'un peu animiste, un peu primaire, de dire que genre son cycle s'arrêtait là, tu vois. Donc du coup, lui se dédouane de par cette force naturelle au-dessus.
Et la maman est derrière.
Et la maman est derrière. Et vraiment, il y a un truc qui me choque, c'est que même cette petite Kiri qui pourrait être super intéressante, bah en fait, son arc narratif à elle n'est même pas assez important pour son père. C'est-à-dire que c'est la seule qui est, entre guillemets, ok, elle a son axe narratif à elle toute seule, mais en soi, il est tellement
oui,
traité
si
par rapport
elle va sauver les femmes,
garçons,
hein, oui, les hommes se sauvent tout seuls.
Si tu peux dire ça, Sophie, c'est parce que effectivement, son arc narratif n'a pas d'intérêt pour Jack Sully, mais il en a pour James Cameron, puisqu'il le filme. Donc
mais,
à partir de là, je suis désolé, mais...
Il est très faible, son axe narratif.
Non, c'est le centre...
C'est le personnage principal.
Mais sinon, c'est pas du tout le personnage principal, voyons.
C'est pas la protagoniste, c'est le personnage
mais
principal.
Toujours pas.
Pas du tout.
C'est le
elle
garçon
est traité
qui... Bah, en fait, le seul qui arrive à s'intégrer avant sa famille dans la communauté près de la mer avec les espèces de baleines langoustes, eh ben, c'est le deuxième fils qui est un rebelle, pas contre le patriarcat, mais juste contre la figure paternelle. Et c'est un débat qu'on a eu longtemps avec Alexis avant. Parce que c'est pas parce que tu te rebelles contre ton père que tu te rebelles contre le patriarcat de manière générale. Bon. Et ce garçon-là, vu qu'il arrive à communier avec ses baleines langoustes, en fait, c'est lui là, le principal parce qu'en fait, il arrive à être plus intelligent que sa famille et à comprendre aussi la notion d'outcast qui pourrait être un truc super intéressant, sauf que de toute manière à la fin James Cameron ses axes narratifs il en a plus rien à foutre, tout ce qu'il veut faire c'est faire couler un bateau parce qu'apparemment entre Abyss, Titanic et celui-là sa passion c'est faire couler des trucs. Genre, littéralement, ce que j'ai retenu, c'est que ça, il sait super bien le faire. Tu vois.
Eh ben, ça promet ce podcast. Hein.
On n'a dit pas de spoiler, mais si, évidemment, vous avez vu Titanic ou Abyss, vous allez avoir un petit sentiment de déjà-vu.
Dire que Titanic, le bateau, il coule, c'est pas un spoiler.
Allez, voilà, Avatar, La Voix de l'eau de James Cameron, chef-d'œuvre absolu du 7e art, ou trop longue cinématique de jeux vidéo scénarisée par un enfant attardé, à vous de juger. Et n'hésitez pas à nous
quel
dire
enfoiré.
Ce que vous en pensez dans les commentaires.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Le passé, c'est bien et c'était mieux avant, comme chacun sait. Le présent, c'est top, même si on aimerait avoir un peu plus de temps pour dormir. Et le futur, alors, eh bien, le futur de tous les espoirs, de toutes les promesses que nous réserve 2023 dans les salles obscures et sur les écrans. Nos chroniqueurs et nos chroniqueuses éreintées par cette année qui s'achève vous parlent de leurs attentes. Mais pour commencer, est-ce que ça va être bien 2023? qu'est-ce que vous l'entendez? Comment est-ce qu'on peut sortir du marasme qu'a été cette reprise de 2022, notamment post-pandémie? Un mot là-dessus, qui veut commencer? Alexis?
Bah, en allant voir Avatar 2, peut-être. Je blague, mais je pense qu'il y a quelques films cette année, évidemment, et c'est un peu le problème, un problème dont on n'arrive pas à se dépêtrer suffisamment, mais je pense qu'il y a quelques grosses productions qui vont sortir cette année et qui ont, à mon sens, le potentiel de faire revenir des gens dans les salles. Après, c'est toujours la grande question, est-ce qu'un film de divertissement qui fait revenir les gens dans les salles va réussir à les faire revenir sur la durée? Jusqu'à présent, ça ne s'est jamais vraiment vérifié. Je ne vois pas pourquoi ça se vérifierait maintenant. Mais il y a quand même, dans le calendrier des sorties, des films qui peuvent avoir générer un vrai attrait populaire et qui sont en plus, j'imagine qu'on en reparlera, des films qui ont, à mon avis, des vraies qualités cinématographiques à défendre, quoi.
Arthur,
Par rapport au fait de revenir en salle de suite à un succès, c'est intéressant de regarder que le plus gros succès en France cette année, c'est Top Gun, qui a 6,5 millions, hein, c'est 3 millions de plus que le numéro 2. Est-ce que le succès de Top Gun va pas avoir un impact sur le succès de Mission Impossible? Parce que, objectivement, les gens sont venus pour Tom Cruise, pour voir les cascades, pour voir un truc impressionnant. Ce que promet être Mission Impossible, ça peut avoir un impact.
Top Gun aussi, c'est-à-dire que pour voir une franchise qui est reprise 30 ans après.
Alors oui, mais Mission Impossible, c'est aussi que des cartons. Les derniers ont quand même plutôt bien marché en salle.
Oui, mais il y a une logique différente, c'est-à-dire que Top Gun, c'est reprendre une franchise des années 80 et donc la remettre au goût du jour avec le même acteur, alors que Mission Impossible, c'est une franchise qui ne s'est jamais interrompue depuis les années 90. Donc
dans
on n'est pas
cas,
tout à fait dans la même logique.
Dans tous les cas, en dehors de Mission Impossible, il y a d'autres suites de films qui ont été des cartons en France aussi, donc ça peut avoir un impact. Les gens voudront sans doute revenir en salle pour voir Dune 2, voudront sans doute revenir en salle pour voir la suite de Spider-Man en animation, voudront sans doute revenir en salle pour voir des trucs comme ça. Et puis même côté français, on sait que c'est des gros enjeux, mais le Astérix, les Trois Mousquetaires, ce sont des choses qui peuvent attirer le spectateur plus que la production de 2022, qui était quand même un sacré cru. Hein. Après, il y a un truc à prendre en considération, c'est qu'encore une fois, les plateformes se multiplient, les habitudes demeurent les mêmes que depuis le premier confinement, à savoir les gens restent de plus facilement devant leur écran que devant une salle de cinéma. On a vu à Paris récemment l'ouverture d'un cinéma premium qui propose des séances très chères pour une expérience soi-disant différente, alors que c'est juste un siège qui s'allonge. Et quelle habitude ça va changer? Qu'est-ce que ça va provoquer? Je ne sais pas, mais en réalité, 2023 peut être une année vraiment différente en termes de purs chiffres et de pure industrie que 2022.
Simon?
Qu'il y ait des films, j'ai envie de dire, individuellement, spécifiquement, qui soient capables d'attirer beaucoup de public. J'en doute pas, et j'aurais pas tu vois, la curiosité ou la prétention d'essayer de dire, tiens, plutôt celui-ci, plutôt celui-là. Ça me paraît un constat logique. En fait, ça ne me semble pas être le sujet. C'est-à-dire que, rappelez-vous, depuis Tenet, à chaque fois qu'il y a un film événement, on se repose la question, est-ce que ce film va redonner envie? On se l'est posé pour Tenet, on se l'est posé pour d'autres, on s'est dit, oh là là, Spider-Man No Way Home, oh là là, vraiment, là, d'un coup, ça y est, c'est reparti. Oh, tel film-là, ça y est, c'est reparti. En réalité, je pense deux choses. Premièrement, aucun film n'a le pouvoir de réactiver la fréquentation des salles. Il y a des films qui ont la capacité d'amener des spectateurs. En revanche, ce qu'on constate, c'est bien qu'il y a une habitude qui s'est perdue. Un film ne peut pas refonder une habitude. Et typiquement, Top Gun, sans parler du tout de la qualité du film, hein, ça n'est pas une critique, ne peut pas refonder une habitude. Et d'ailleurs, il ne l'a pas refondée. Par conséquent, et j'en reviens à quelque chose que j'ai dit il y a quelques heures autour de cette table, la vraie question demeure, comment arrivons-nous à faire savoir aux gens que des films existent? Moi, ce qui me fascine, et on voit, mais vraiment, et on voit ça des dizaines de fois dans l'année, depuis la fin du confinement et du confinement des salles, on voit des films dont on peut dire, tu vois, en essayant d'être, tu vois, un peu, en prenant un peu de recul, en disant que, tiens, telle ou telle production ont une capacité à être des films grand public, ou en tout cas à public large, des films qui sont capables d'attirer les gens, dont les thèmes sont très faciles à, on va dire, à transmettre, qui ne sont pas des œuvres inaccessibles, et ben, ce qu'on remarque, c'est que les gens ne savent pas que ces films sortent en salle. Nous sommes dans un pays où les gens ne savent pas ce qui sort en salle. Tant qu'on n'aura pas trouvé, craqué, le moyen pour, en France, faire savoir au public quels sont les films à l'écran, il n'y aura pas de réponse positive à l'avenir du cinéma en salle.
Moi, j'ai un exemple très concret de ce que vient de dire Simon. Hein. J'ai vu en projection presse, alors à l'heure où on enregistre le podcast, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, on va dire, Babylone, le nouveau film de Damien Chazelle. Je l'ai mis sur ma story Instagram et j'ai eu plusieurs réponses de certaines de personnes qui me suivent, qui se disent très cinéphiles, qui m'ont écrit en disant « Putain, je savais même pas que Chazelle faisait un nouveau film. Je suis trop fan, j'adore tous ses films, je savais pas qu'il faisait un nouveau film. » Alors que pour moi, journaliste ciné qui suit l'actualité de très près, c'est un événement ce film. Donc non, on ne sait pas parler des films qui sortent, sachant que Babylon sort le 18 janvier. Donc c'est vraiment là.
C'est demain.
Et qu'on parle d'un film avec Brad Pitt, Margot Robbie, c'est un budget fou, énorme, qui se voudrait un immense film à Oscar. Et littéralement, les gens ne savent pas que ce film existe. Pas qu'il sort à cette date-là, qu'il existe.
C'est dingue.
Sophie. Alors,
je pense que les gens ont perdu l'habitude d'aller en salle. Tu l'as très bien dit, Simon. Et je pense que je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a aucun gros film qui peut rameuter. C'est-à-dire, genre, il peut rameuter à un instant T, mais après, en fait, les gens perdent l'habitude. Ce qui manque, c'est cette idée de tiens, en fait, le cinéma, c'est une activité sympa que je peux faire pour, entre guillemets, pas trop cher et surtout d'une œuvre, enfin, genre, de manière diversifiée. Je m'en suis rendu compte, pareil, hein, expérience personnelle, ma grand-mère, pour ses 85 ans, a eu une carte pâtée. Et en fait, du coup, ça la rend curieuse, cette possibilité d'avoir le choix, de se dire, bah tiens, dans mon cinéma, je vais aller voir le film avec Gad Elmaleh, elle allait voir Chronique d'une liaison passagère, elle va voir les films qu'elle regarde sur Varmatin et qui lui inspire quelque chose. Parce qu'en fait, juste le fait d'avoir et de posséder une carte qui l'empêche de se dire, bon bah ok, il va falloir que je mette 17 euros pour aller voir ce film, quoi que ce soit, juste ça, cette petite carte lui a redonné le goût d'aller au cinéma parce que ça devient une activité facile. Et j'ai l'impression qu'on a perdu ce côté genre, tiens, ça peut être une activité d'un mardi soir, d'un dimanche soir, d'une pause déj, enfin peu importe. Et je crois qu'en fait, Netflix ou les plateformes en fait, ont juste remplacé ce côté de tiens, ça c'est encore plus facile. Et je pense qu'en fait, il faudrait redonner ce goût de la facilité du cinéma et pas que de l'expérience exceptionnelle.
Il y a un truc à prendre en considération, même si c'est mineur entre guillemets par rapport au score d'avant Covid et au score d'avant plateforme. Il y a eu en 2022 des films qui ont eu des scores plutôt honnêtes grâce à un bouche à oreille solide. Je pense à La Nuit du 12, je pense à Asbestas, on en a parlé quand on parlait des top et flop. Donc il y a encore une curiosité qui est possible à atteindre via un excellent bouche à oreille ou la presse, je ne sais pas. Pour moi, c'est plus le bouche à oreille que la presse, mais voilà. Il est encore possible d'aller piquer cette curiosité avec des films qui sont en fait des propositions assez singulières.
Simon, pour conclure.
Alors, c'est pas tellement une conclusion, mais c'est peut-être un sujet qu'on abordera après, je ne sais pas. Il me semble qu'en fait, il va falloir qu'on réfléchisse à très très brève échéance en France. Non pas à la fin de la salle de cinéma, parce que, et je l'ai déjà dit, je suis très attaché à la salle de cinéma. Mais à un moment, il va falloir qu'on regarde un petit peu le réel et combien il vient toquer à la fenêtre de la salle de projection. C'est-à-dire que si une proportion croissante et croissante et croissante et de plus en plus importante des spectateurs veulent et désirent voir les films chez eux, que ce soit sur leur téléphone, sur leur ordi, sur leur vidéo proche ou sur leur super télé, en fait, nous n'avons pas vocation à décider comment les gens regardent les films. Et donc, nous allons devoir trouver des courroies de financement et des manières de faire exister le cinéma français sans se dire bah, « nous sacralisons la salle et nous allons amener tout le monde en salle » quand personne ne veut y aller. Et encore une fois, moi, mon médium privilégié du cinéma, c'est la salle. La question n'est pas là. Si le public décide qu'il découvre, vit et consomme le cinéma via d'autres médiums, alors parce que nous avons un financement du cinéma qui est collectif et qui est organisé en système, nous devons le repenser avec un autre centre de gravité que la salle et nous devons le faire vite avant que notre cinéma périclite, meure et se déconnecte encore plus fort du public qu'il n'en est déconnecté à présent.
Allez voir les films en salle où vous voulez, en fait, puisque c'est le message. En fait, le cinéma se consomme aussi, et quoi qu'on en dise, sur tous les supports et sur toutes les plateformes. En attendant 2023, il y a des belles choses qui vous attendent en salle, parce que bon, bah, la salle, c'est quand même pas mal tant qu'elle est là. Il faut en profiter. Et il y a un film qui vous fait trépigner à peu près tous les quatre. Le prochain Ari Aster, qui s'appelait à l'origine Disappointment Boulevard, qui s'appelle maintenant Beau is Afraid, avec notamment Joaquin Phoenix. Quand on parle d'Ari Aster, Sophie, je m'adresse à toi parce que c'est un film que tu attends particulièrement.
En fait, il faut savoir que Ari Aster, si vous ne le connaissez pas, il a déjà fait deux longs métrages, donc le premier étant Hérédité, le deuxième étant Midsommar, et qu'il avait fait une flopée de courts métrages que vous pouvez tous découvrir sur internet parce qu'ils sont en accès gratuit, notamment The Weird Thing About the Johnson, si je ne dis pas de bêtises.
Absolument.
Qui est sans doute l'un des courts métrages les plus glaçants et les plus brillants que j'ai pu voir de ma vie. Et ça fait quelques années que Ari Aster et un de ses compères, Robert Eggers, dont on a parlé notamment pour The Northman, et en fait, ils ont quasiment le même âge.
Réalisateur de The Witch aussi, et de The
Lighthouse. Voilà, de The Witch, de The Lighthouse et de The Northman. Et en fait, les deux sortent quasiment un film chacun la même année. Ils ont le même nombre de films à leur actif. Et là, Robert Eggers a sorti The Northman et Ari Aster n'a pas encore sorti le sien, donc là on est en train de voir genre qui va gagner à la bagarre, et c'est un peu intéressant de voir leur progression dans un sous-genre qui s'appelle Elevated Horror et dont les deux se revendiquent un peu les porte-paroles. Là, Ari Aster nous promet un film très long. Il a jamais menti sur le fait que le film ferait potentiellement plus de 3 heures et que, à mon avis, ce serait tout aussi sombre que Midsommar ou Hérédité. Est-ce que ce sera de l'horreur pure ? Est-ce qu'il ira dans quelque chose de plus folklorique, de plus intime ? On ne sait pas. Est-ce qu'il va faire comme son compère et aller dans un style un peu radicalement différent pour aller plus vers une esthétique de studio ? On ne sait pas. Il a laissé un mystère quasi total. Tout ce qu'on sait, c'est que le film est terminé depuis un moment et on se demande juste dans quel festival il va aller.
On n'a pas de Cannes, hein.
Moi, je vise Venise. Je sais pas pourquoi, ah ouais. je le sens pas très Cannes.
Ça fait tard Venise, non ?
Ça fait
non,
tard, mais c'est l'année prochaine. Mais on a pas de pitch du tout pour le moment ?
Rien.
Non.
Si ce n'est un poster où on voit un Joaquin Phoenix qui a été rajeuni numériquement très jeune. Ouais. Ouais.
Et puis des photos de tournage où il n'est pas du tout rajeuni, où il n'est pas du tout numérique et où ça a pas l'air d'aller fort.
C'est ça. Tout ce qu'on sait, c'est que je fais souvent une comparaison. C'est pour moi, Ari Aster, c'est le Woody Allen de l'horreur. C'est-à-dire que c'est le stéréotype de l'intello juif new-yorkais qui va très 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 mal et qui paye très 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 cher son psy et qui fait des films pour aller mieux. Sauf que Woody Allen, on rigole, c'est un petit peu léger. Ari Aster, on a envie de se tirer une balle et de lui demander comment ça va.
Et puis on sait qu'il y aura Denis Ménochet et ça fait toujours plaisir.
Oui. Mais oui.
Denis Ménochet.
Ah, et puis la rencontre Joaquin Phoenix de Denis Ménochet. Non pas individuellement, mais
en termes de physicalité, il y a un truc qui joue.
Va y avoir du monstrueux au sens Ari Aster style, c'est-à-dire genre du monstrueux humain tordu, weird.
Alors moi, Simon, c'est une de tes grandes attentes aussi.
Alors moi, c'est une de mes grandes curiosités, tout simplement parce que je suis pas très sensible au concept et on va dire à la définition de elevated horror qu'on pourrait appeler l'horreur d'auteur. Mais je te dirais, il me semble que c'est un concept que pour moi qui s'est totalement écroulé ces dernières années. C'est-à-dire que Robert Eggers, pour moi, c'est un petit peu comme une bouillotte percée remplie de pipi, quoi. C'est pas terrible.
Non, Simon. Argument invalide.
Et pourtant, t'aimes bien les bouillottes avec le pipi, normalement, non ?
Eh ben oui, mais pas au cinéma.
Et t'aimes The Witch, non ?
Oui, mais justement, je trouve The Witch merveilleux. Je trouve que ces deux films suivants sont d'un embarras sans nom. Mais à l'inverse, justement, s'il y a bien un seul et unique metteur en scène qui me paraît à la hauteur de cette appellation très snobinarde et qui me semble très problématique de la elevated horror, et ben c'est bien lui. Et du coup, quand bien même pour moi Midsommar est un film qui est un petit peu trop référentiel, je le trouve brillantissime et passionnant. Et surtout, je considère que Hérédité, pour moi, est le seul film qui est à la hauteur de Ne vous retournez pas et de L'Exorciste. Voilà, on est là-dedans. On est dans, wow, cette, dans ce ouais, type
je suis d'accord.
Grandeur
de Nicolas Roeg.
Ouais. Et pour moi, il joue véritablement dans cette cour-là. Il travaille ses principes-là de mise en scène et il est là-dedans. Et vraiment, je considère qu'Hérédité est un chef-d'œuvre absolu.
Un peu comme Annabelle 3, que tu aimes vraiment beaucoup.
Oui, mais moins que La Soupe aux Chouilles.
Bref, on attend beaucoup Beau is Afraid de Ari Aster et nous parlons devant, nous pouvons le dire, un magnifique poster, une affiche de Midsommar dans l'endroit où nous enregistrons un autre film qui est très attendu et que l'un d'entre vous a déjà eu la chance de voir. C'est le prochain Spielberg, The Fabelmans, et tu l'as vu, Alexis ?
Ouais, j'ai eu la chance de le voir, je crois, la première projection presse organisée à Paris. Si j'avais le temps, crois-moi que je l'aurais fait. The Fabelmans, c'est évidemment un film que j'attendais, mais que j'attends toujours parce que j'ai envie de le revoir, hein, bien sûr.
Raconte-nous un peu en deux mots, puisque c'est un film assez autobiographique. Hein.
Alors, je pense qu'on est au-delà du assez autobiographique, c'est-à-dire qu'en gros, Spielberg raconte son enfance et sa jeunesse, avec pour point de départ la première fois qu'il est allé avec ses parents au cinéma, avec pour point final la première fois qu'il a commencé à travailler comme petit assistant dans les studios de la chaîne de télévision américaine CBS. Donc le film va brasser toute la jeunesse de Spielberg de ce point de départ à ce point d'arrivée, à ceci près que Steven Spielberg ne s'est pas nommé comme ça dans le scénario. Il s'appelle Samuel Fabelman. Fabelman, l'homme fable, Spielberg, la montagne de jeu. Enfin, le parallèle est assez évident, même si je ne l'avais pas capté au premier abord, je dois le reconnaître, tellement c'était évident. Ce qui en fait est intéressant avec The Fabelmans, c'est que moi, j'ai vécu le film comme une expérience vraiment bouleversante, tout simplement parce que, et j'aurai l'occasion au moment de sa sortie d'en reparler, mais moi ça fait longtemps que je m'intéresse au cinéma de Spielberg, depuis que je suis gamin, et ça fait bien depuis le début de mes études de cinéma, donc il y a quand même, pas loin de 10 ans, la vache.
Aïe.
C'est vraiment une vieille personne.
Ouais. Rire sarcastique.
Non, mais j'ai vu E.T. au cinéma.
Ah, c'est
faux. Non, c'est faux.
Non, t'as juste vu une petite personne nue.
Oui, mais ça, c'était devant chez moi. Non, pardon.
Non, mais en fait, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que ça fait longtemps que je lis beaucoup sur le cinéma de Spielberg, que je me renseigne sur ses obsessions, en tout cas sur ses thématiques, sur les sujets qu'il travaille, qui reviennent en filigrane dans chaque film. Et là, j'ai vraiment le sentiment que Spielberg, évidemment, comme toujours, est un cinéaste très inclusif, qui s'adresse à un public large et qui fait des films qui sont très faciles d'accès, qui, attention, n'en reste pas moins complexes et souvent virtuoses, mais qui sont des films très faciles d'accès. Mais j'ai l'impression que pour la première fois, au-delà du grand public, il s'adresse d'abord aux gens qui suivent son cinéma depuis longtemps. Et moi, j'ai eu l'impression, et ça m'a ému aux larmes, que le cinéaste venait me taper dans le dos pour me dire « Tout ce que tu as vu dans mes films, tout ce que tu as spéculé sur moi, t'avais raison et je te le prouve maintenant. »
C'est-à-dire que ce serait un film plus intimiste, parce que, Spielberg a beaucoup parlé de lui dans sa filmographie, mais de manière toujours assez allégorique,
c'est le film
en se planquant un peu.
C'est le film le plus intimiste qu'il ait jamais réalisé, pour la bonne et simple raison que c'est la première fois qu'il parle de sa vie, quoi. Ouais. Directement, littéralement, quoi.
Moi, c'est un mouvement qui me fascine un petit peu. Depuis quelques années, on voit des cinéastes qui racontent un peu leur vie, leur enfance. Je pense à Roma de Cuaron. On a pu parler ici de Licorice Pizza, qui raconte une partie de ce qu'a pu vivre en tant qu'enfant, même si c'est pas vraiment le cas, Paul Thomas Anderson. C'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent, et effectivement, le voir Spielberg le faire, c'est quelque chose de très excitant. Quand on a vu les premières photos, quand on a vu les présentations au festival, les premiers retours hyper enthousiastes, ça fait toujours envie. Et puis moi, le fait qu'il y ait Seth Rogen qui joue dans un film de Spielberg, c'est quelque chose qui m'enchante.
Et qui est absolument époustouflant.
Ça m'étonne pas. Dano.
Non, mais Spielberg est un directeur d'acteurs exceptionnel, et il le prouve une fois de plus. Quoi. Enfin, moi je trouve Paul Dano, Michelle Williams et Seth Rogen absolument dingue, quoi.
Simon,
à mon sens,
il n'est pas insensible au cinéma Spielberg non plus. Surtout Indiana Jones 4,
fils de pute. Votre air de la litote vous honore. Non, tout simplement, on a tendance, me semble-t-il, toujours à réévaluer et se tromper de nouveau sur le cinéma de Spielberg. Par exemple, et loin de moi l'idée, Alexis, parce que je sais que tu l'aimes autant que moi, de critiquer ce que tu viens de dire, mais à la fois, tu as raison quand tu dis que c'est son film le plus intime jusqu'à présent, et en même temps, je suis pas sûr qu'il puisse y avoir geste plus intime dans le cinéma de Spielberg que la conclusion de Ready Player One, où tout d'un coup, on a ce gamin et ce créateur qui se regardent, et ce gosse qui lui dit « Mais vous êtes un programme, vous êtes un fantôme, vous existez ?» Et cette entité en face de lui qui dit « Je ne sais pas ». Ce que je veux dire par là, c'est que, à mon sens, depuis Cheval de guerre, chez Spielberg, il y a un travail des formes, un travail de comment les perturber, les transformer et y mettre de l'intime qui, moi, me sidère. Spielberg a été ce divertisseur de l'extrême, ce producteur incroyable, ce créateur de formes démentielles, ce type qui a ramené dans le cinéma grand public une forme du pulp, du cinéma hollywoodien classique.
Et qui a créé le blockbuster, littéralement.
Et qui a littéralement tué, voire assassiné le nouvel Hollywood. Eh bien, néanmoins, à côté de ça, depuis Cheval de guerre, il y a cet homme qui, moi, à chaque film, m'agace parce que j'ai l'impression qu'il est en train de s'ensuquer dans une forme ancienne et un peu vieillotte, et qui, à chaque fois, me sidère par la modernité, l'intelligence et l'intimité qu'il met dans ses récits. Ça fait maintenant 10 ans que tous les films de Spielberg me laissent à genoux. Et d'ailleurs, je suis extrêmement frappé de constater que beaucoup de gens qu'il avait un petit peu réhabilités au début des années 2000 sont actuellement très perturbé par l'intertextualité, par la richesse thématique et la richesse de mise en scène de ces 5-6 derniers films. Et justement, pour moi, The Fablemans, je n'ai qu'une seule certitude. Moi, contrairement à toi, je ne l'ai pas vu, je le précise pour ceux qui nous écoutent. Je pense que je vais être infiniment surpris. C'est ce que je sais. C'est ce que je sais du Pont des Espions. C'est ce que je sais de Lincoln. C'est ce que je sais de Ready Player One. C'est ce que je sais de West Side Story, évidemment, qui est quand même incroyable. Le tour de force de dire, 36-15, bonjour les amis, je vais niquer West Side Story. Et ouais, il l'a fait et sans les mains.
C'est dit avec tellement d'élégance.
Je suis pas complètement d'accord sur ça.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont à chaque fois de vraies propositions, de faux classiques. C'est un cinéaste qui fait semblant de vieillir et qui ne cesse, moi, de me sidérer à chaque proposition.
Mais l'un des projets, après j'arrêterai de parler de Spielberg, c'est promis, mais l'un des films les plus expérimentaux et les plus casse-gueule de Spielberg artistiquement, c'est Lincoln. Alors que pourtant, vu de l'extérieur, c'est le projet le plus académique et le moins alléchant de sa filmographie. Et quand tu te confrontes au film, tu te demandes juste comment il a réussi à le mener à terme, quoi. Parce qu'il y a un geste artistique complètement dingue là-dedans.
Moi, j'aimerais. Tu parles d'Abraham Lincoln, chasseur de vampires, évidemment.
I'm a vampire hunter, fellow Americans.
Oh,
et il le fait très très bien. C'est lui qui a été casté pour le doublage en biélorusse. Sophie.
En fait, j'allais juste dire que j'étais d'accord avec Simon sur la fin de Ready Player One, même si pour moi, en fait, ça fait écho à la quasi-intégralité d'Intelligence Artificielle. Et ce qui est très joli avec Spielberg, c'est toujours l'intertextualité de ses films et le rapport à la famille. Et encore une fois, moi, je fais partie de ces personnes qui ont complètement délaissé le cinéma, a priori, plus sérieux de Spielberg de ces dernières années. Je m'y suis remise vraiment avec Pentagon Papers et Ready Player One. Mais c'est vrai que ceux d'avant, je les ai délaissés. Je suis restée vers l'enfance. Et en fait, là où j'ai l'impression que son cinéma devenait adulte, comme moi, et que ça m'intéressait du coup moins, bah en fait, peut-être que non, peut-être que la part d'enfance que moi je sauverai toujours, mon film spielbergien, c'est Hook, parce que j'ai grandi avec.
La meilleure bande originale de John Williams, a fermé vos gueules, niquez-vous.
En fait, ce côté sparkles de d'enfance, en fait.
Parce que moi j'étais plus âgé, donc Hook, moi je l'ai,
c'était ma VHS d'enfance, tu vois, donc du coup, et dans mes attentes,
on a oublié de dire que la bande originale d'Avatar est vraiment épouvantable, pardon. Elle est vraiment atroce.
Précisons qu'elle est centrée sur le thème du personnage féminin.
Bah, pour dire à quel point elle est traitée comme de la merde.
Ouais, c'est vraiment ça.
Ne relançons pas cette discussion, s'il vous plaît.
On a encore plein de trucs à traiter. Hein.
Allez, The Fablemans, on va passer rapidement, on va faire un tour de table sur ce que vous attendez, vous, en dehors du Harry Astor et du Spielberg. Je vais commencer par ma gauche avec Alexis. 2-3 pistes, une piste, ce que tu veux, mais qu'est-ce qui t'excite sur cette année 2023 qui s'ouvre ?
Je m'étais promis d'essayer de ne pas parler que de cinéma américain, sauf que moi, il y a Tom Cruise qui revient, donc je peux pas ne pas en parler, en fait, parce que faut quand même...
Fanzouz.
Non, mais faut quand même rappeler qu'un des événements...
C'est impossible.
Non, mais un des événements de cinéma les plus commentés et qui a eu le plus d'impact de l'année 2022... Non, c'est pas celui-là qui est dans l'espace, ouais. D'accord. C'est celui de Doug Liman qui n'est pas encore tourné. Bref, l'un des événements de cinéma de l'année 2022, ça a été le premier trailer de Mission Impossible 7, qui a littéralement lessivé tous les fans de films d'action, parce que c'est un trailer qui ne raconte rien, ne dévoile quasiment rien de l'intrigue du film, mais qui est bourré à ras-bord de scènes d'action. Et moi, juste, il n'y a pas une image dans le trailer qui ne m'excite pas d'un point de vue strictement cinégénique, en fait. Et pour moi, le talent de Tom Cruise, il est là. C'est que Tom Cruise a compris depuis longtemps que, par ses aptitudes de cascadeur, par ses aptitudes d'athlète, parce que c'est un athlète pluridisciplinaire, il a compris que cette aptitude-là devait être mise au service d'une seule chose, qui était vraiment le plaisir, le plaisir du grand spectacle cinématographique. Et je pense que Mission Impossible 7 va mettre encore une fois la barre très très haut, et donc moi, j'ai très hâte de m'y confronter. Ouais.
Est-ce que tu as vu le teaser qui est sorti il y a quelques jours ?
Non, je ne l'ai pas vu.
C'est un teaser très court. Ils ont fait exprès ces gros bâtards en disant « Ah, le trailer qui va diffuser avant Avatar 2 aux États-Unis ». C'est un teaser de Macquarie, donc le réalisateur, et Tom Cruise en haut d'une espèce de pente où on sait qu'il a fait une grande chute
une cascade en moto, ouais.
Et c'est filmé au drone et tu les vois eux deux face à un précipice énorme, et c'est en mode expérimenter bientôt le teaser en IMAX, et rien que ça dure 15 secondes, t'es scotché à ton siège et tu fais putain bande
de non, mais il a un sens de la communication et de la mise en scène de lui-même qui me dépasse. Il y a un fond quand même, hein, chez Tom Cruise, un fond de cynisme et de malhonnêteté intellectuelle qui est un peu crado, hein, qui pue un peu. Mais il faut quand même reconnaître que si on prend pour simple critère la construction de la star par elle-même, Tom Cruise est un exemple unique dans l'histoire du cinéma. Je pense qu'aucun acteur n'a mieux compris les règles du star system hollywoodien que lui, quoi.
Rappelons, le mec a 60 ans.
Non, mais c'est-à-dire que...
Le mec a 60 ans.
Non, il n'a pas d'âge. Okay.
Non, mais je suis désolé pour mon père s'il m'écoute, mais de savoir qu'il y a, je crois, 4 ans d'écart entre mon père et Tom Cruise, ça me dépasse, quoi. Et le mec fait des vrilles en avion.
Dis à ton
avion,
père,
quoi,
de monter sur un A380 et de s'attacher à la porte, et merde, hein.
Ça me dépasse.
Sophie.
Bah, moi, je vais commencer. On verra combien de tours on fait, peut-être qu'un. Donc, du coup, j'en profite pour dire mes deux attentes de cinéma français. Le premier étant L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, qui est une autrice que j'aime beaucoup, enfin, une cinéaste que j'aime beaucoup, et qui fait tourner Virginie Efira, qui joue deux sœurs jumelles. Donc, en fait, Virginie Efira sera deux fois dans ce film, et donc, c'est deux fois plus de Virginie Efira. Et j'attends. Et Valérie Donzelli, je trouve qu'elle a un cinéma absolument charmant qui vient toujours me percuter par sa douceur, sa bienveillance et par ce petit grain de folie qui est toujours très agréable. Et surtout, il y a aussi Le Livre des Solutions, qui est le nouveau film de Michel Gondry, sachant qu'il n'avait pas fait de film depuis Microbes et Gasoil, donc ça commençait à dater. Et je suis très curieuse de savoir dans quelle mouvance du cinéma de Gondry ça va s'orienter, parce que Gondry On le connaît beaucoup pour sa carrière américaine ou pour son côté clipesque, puisqu'il a fait les plus grands clips de l'histoire de l'humanité. Mais il a aussi un côté très intimiste français qu'il avait fait donc avec ses documentaires, notamment L'épine dans le cœur, mais aussi avec Microbe et Gasoil. Et je veux savoir s'il va être dans une démarche un peu de studio comme il l'avait fait avec sa tentative un petit peu ratée d'adaptation de Boris Vian, ou si au contraire il va aller dans quelque chose d'un peu farfelu qui va toucher à la technique et à l'audace cinématographique un peu... Moi j'aime bien, c'est le côté crafty, genre bricolage carton-pâte. Et donc j'attends parce que je ne sais rien du film, je sais juste qu'il y a Pierre Niney et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu un aussi gros casting depuis l'adaptation de L'écume des jours.
Pour répondre juste aux deux points que vient de dire Sophie, premièrement, le Donzelli, c'est intéressant que tu dises que c'est de la douceur. Quand on sait que pour Virginie Efira, c'était un tournage très intense, parce que très dur, parce que très physique, parce que très violent.
Oui, mais alors, Donzelli, même dans ses sujets très durs, par exemple, La guerre est déclarée, c'est sans doute un des films les plus déchirants que j'ai vu de ma vie. Et pourtant, elle arrive toujours à capter du quotidien par la douceur. Genre, dans La guerre est déclarée, il y a une scène qui est sans doute une de mes scènes préférées du cinéma français, où les deux parents se demandent comment va être leur fils. Avec Jérémy Elkaïm, qui demande mais imagine demain notre fils, il est... Et en fait, ils font un truc hyper absurde sur deux parents qui attendent le résultat d'une opération, et elle arrive à transformer ça sur de l'absurde et de la douceur. Et donc, j'espère qu'elle va faire quelque chose comme ça sur un sujet qui est très dur sur le... Je sais que c'est sur la perversion narcissique et sur le couple. Et en fait, j'attends de savoir comment elle va pouvoir y insuffler quelque chose d'atypique sur le quotidien.
Et pour rebondir à un deuxième point par rapport à ce que vient de dire Sophie, Pierre Niney a expliqué en interview que le Michel Gondry serait un truc à moitié autobiographique de la part de Gondry et très 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 intime. Voilà, pour répondre à ce que tu viens de dire.
J'ai hâte. Voilà.
Moi, de mon côté, je voulais parler
de...
En vrai, j'ai 800 films que j'attends cette année à peu près. Enfin non, peut-être pas, mais voilà. Je voulais citer le nouveau Spider-Man Across the Spider-Verse parce que le premier était vraiment superbe, parce que l'animation, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et même si on sait qu'en 2023, on va encore chialer devant Pixar et on va sans doute chialer devant le dernier Miyazaki, je pense que Spider-Verse a une proposition graphique que je trouve un peu unique. Il y a forcément des choses plus folles, il y a forcément des choses plus impressionnantes, mais moi, ça a été une énorme claque. Et le trailer qui est sorti quelques jours avant que nous enregistrions cet épisode m'a foutu une petite baffe. J'ai pas voulu le regarder, j'ai pas pu m'empêcher de regarder des images, et je me dis que ça va être un grand film. Et un grand film de 2023 important. Et je voulais parler aussi...
Juste préciser deux secondes que le premier épisode, on parle pas des Marvel avec Tom Holland.
Non, c'est le film d'animation sorti en 2018, réalisé par Chris Miller et Lord...
Écrit par eux, mais pas réalisé par eux.
Par Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rotman. Il était un très beau film d'animation...
C'est un film immense.
Va donner un univers graphique à chaque personnage. Là, on sait qu'ils vont encore plus multiplier l'affaire. Enfin, ça a été jusque-là la meilleure exploitation de ce qu'est le multiverse chez Marvel. C'est un grand film et la suite vraiment est une grande attente. Une de mes grandes attentes, c'est également la suite de ce qui fut pour moi le meilleur film de 2021, à savoir Dune 2. J'aime énormément l'histoire, j'aime énormément le casting et surtout le réalisateur. Hâte de voir comment cela va aboutir dans le 2. Et quand même, je voulais parler un petit peu de Nolan qui, après Tenet, revient
Dune
à...
Deuxième partie
prévue pour septembre, arrivée du exploitation de tout ce qui est le personnage de Zendaya, de toutes ces tribus-là, arrivée de Florence Pugh dans le rôle de la princesse, etc. Donc la suite de Dune sortie en 2021. Qui était un chef-d'œuvre. Voilà.
D'accord, Denis Villeneuve, c'est le cinéaste qui habille les méchants en Asie et les gentils aussi. Pour que je resitue un peu.
Je ne vais même pas.
Denis Villeneuve est un des réalisateurs les plus intéressants. Revoyez Ennemi si vous ne l'avez pas vu. Ennemi est un film.
Ou Blade Runner 2049, qui pour le coup est un très grand film.
Mais j'ai envie de te dire, c'est premier intéressant contact. Parce que mine de rien, on est dans une émission où tu as à choisir entre la mort du sable et la vie de l'eau.
Répondre. Non.
Simon Rio, poète.
Alors, si vraiment on veut opposer Avatar 2 à Villeneuve, vraiment, moi je suis OK pour sortir les armes. Pour sortir des catalans.
On peut opposer.
Après l'enregistrement, les amis.
On peut opposer le cinéma, la taxidermie. Moi, il n'y a pas de
problème. Waouh. Non.
Je n'ai pas envie de monter un épisode plus long qu'Avatar 2, s'il vous plaît.
Et une de mes grandes attentes aussi de 2023 est bien évidemment Oppenheimer, parce que j'adore quand Nolan me triture le cerveau, mais j'adore aussi quand Nolan fait juste un drame un peu visuellement intéressant, mais comme Dunkerque, je pense qu'Oppenheimer aura un peu cette même puissance narrative-là, en tout cas je l'espère. Les premières images donnent très envie, pour l'instant on n'a pas vu grand-chose.
Avec Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh aussi.
Casting
énorme. Florence Pugh partout cette année
attendu.
Très très
pour
attendu.
Pour le mois de juillet 2023.
Juillet, c'est ça. Tout à fait.
Et donc Simon, toi qui aimes vraiment beaucoup Denis Villeneuve, tu attends évidemment la deuxième partie de Dune.
Ah bah bien sûr, parce que moi à un moment j'aurai les pieds sales et il faudra bien que je les mette quelque part, et un peu de sable ce sera pas mal. Non, que dire, de même que moi j'ai du mal avec les tops, j'ai toujours du mal avec les attentes, parce que les attentes ça m'enquiquine en fait. J'aime bien découvrir
parce
les
films. Parce que tu n'attends rien, toi tu prends les choses au fil de la vie, toi tu es au fil de l'eau, tu prends une marguerite sur l'oreille et tu mets ta main dans le ruisseau et...
On peut vous laisser si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein.
Non, tout simplement. Moi il y a deux films dans ceux que... Vous en avez cité plusieurs que j'attends beaucoup, mais dans ceux que vous n'avez pas cités, moi il y en a deux dont j'aimerais causer. Il y a La Bête de Bonello. En fait c'est Bonello qui va faire un film de science-fiction dans lequel il est... Les êtres humains sont très largement encouragés à se départir de leurs émotions. Parce que du fait de la crise écologique, du fait de l'hypercapitalisme, c'est quand même plus pratique de vivre si tu as moins... de sentiments, de ressentiments, de questionnements, de remords, d'inquiétudes. Et donc on va suivre un personnage qui s'apprête à se départir de ses émotions, et en fait cette amputation va plonger ce personnage en fait dans différentes incarnations, dans différentes générations, en 1910, en 1940 et en 2040. Et je suis très curieux de voir Bonello faire un film de science-fiction avec un gros budget qui se déroule comme ça sur plein d'époques. Ça m'amuse. Et sinon, un truc qui n'a rien à voir, qui sera peut-être pas un truc réussi, je n'en sais rien, c'est le nouveau film de Monsieur Ovredal. Ovredal, qui est-ce que c'est ? C'est celui qui a fait Trollhunter, qui a fait The Autopsy of Jane Doe, qui a fait Mortal, et qui a fait un film qui, à mon sens, est totalement sous-estimé, qui est Scary Stories. Eh bien, il va faire The Last Voyage of the Demeter. Et qu'est-ce que c'est ? C'est l'adaptation d'un pan du récit de Dracula par Bram Stoker, qui n'est pas raconté par Bram Stoker. En gros, dans le roman Dracula, eh bien, il y a un bateau, le Demeter, qui amène Dracula jusqu'à Londres. On ne saura jamais ce qui se passe dans le roman, hein, et a fortiori jusqu'à présent dans les films. On ne saura jamais ce qui s'est passé sur le Demeter, sinon que quand il arrive à Londres, eh bien, il est vide. Manifestement, tout son équipage a été massacré. Puis, eh bien, il y a une grande caisse avec de la terre qui recèle quelque chose qui s'appelle Dracula. Et donc, Ovredal s'est dit, tiens, moi, je vais vous raconter le dernier voyage du Demeter. Et je suis très, très, très curieux de voir ce que ce réalisateur-là, qui est extrêmement influencé par Stephen King, qui est ce mec qui fait tous ses films au 50 mm avec une espèce d'art du découpage extrêmement placide et pourtant fait au scalpel. Je suis très curieux de ce qu'il va faire de cette histoire-là.
Oui, Sophie, ça t'excite aussi beaucoup, le dernier voyage du Demeter.
Ouais, voilà. Franchement, j'ai rien à dire. C'est
parce
oui,
que tu faisais des grands mouvements de bras, genre ouais.
Oui, parce que Scary Stories, c'est vraiment un film sous-estimé.
C'est très, très bien.
Et c'est super.
C'est un vrai amour de l'histoire et... d'horreur et du coin du feu, quoi.
Bah, c'est ça. Et The Autopsy of Jane Doe, je trouve ça super. Je trouve ça juste un petit peu moins bien que. The Autopsy of Anna Fritz, qui est un film espagnol qui était aussi un film d'autopsie. Non, The Corpse of Anna Fritz, qui était aussi un film d'autopsie sorti la même année. Mais grosso modo, c'est du cinéma d'horreur divertissant et plutôt intelligent. Et c'est vraiment tout ce dont on a besoin.
On aurait pu, juste parce que là, on conclut un peu l'émission.
On va conclure l'émission.
Je me permets de faire une petite liste exhaustive. On aurait pu aussi parler d'Indiana Jones 5. On aurait pu parler de Retour à Séoul. On aurait pu parler de Barbie. On aurait pu parler du nouveau Scorsese qui sortira sur Apple TV normalement à la fin de l'année. On aurait pu parler de The Killer de Fincher qui sortira sur Netflix. On aurait pu parler d'autres films qui sont pas datés mais qui risquent d'arriver, comme le Michael Mann, comme le Ridley Scott, comme le Coppola, quoi que ça j'ai du mal à y croire. Et on aurait
Metropolis.
Megalopolis. Il est rentré en tournage, hein, de mémoire.
Oui, donc tu vois, sorti pour 2023, ça me semble compliqué. On aurait pu parler du Lanthimos, du Wes Anderson.
Le Lanthimos, bien sûr, et le remake de Josiane, 45 ans, secrétaire à
dissimuler.
Waouh. La vanne va revenir à chaque épisode et à chaque épisode elle sera censurée. C'est terrible.
Yes. Merde.
Tu pourras jamais la faire, en fait.
Tout ça pour dire que
le film est incroyable, il existe. Hein. Cherchez-le sur des sites de torrents.
Et The Eternal Daughter de Joanna Hogg.
Voilà, en fait, j'allais dire qu'il y avait deux réalisatrices qui se sont fait de plus en plus remarquer, même si on a une qui est plutôt jeune et l'autre qui est plutôt avancée dans sa carrière, mais qui a fait un gros. Qui a fait une grosse entrée dans la sphère critique et publique, même si ça reste assez confidentiel, qui est Joanna Hogg avec The Souvenir Partie 1 et Partie 2, qui est sorti entre l'année dernière et cette année. si j'ai pas de l'année dernière.
Qui est sorti cette année. En 2022, les deux.
Et qui sort The Eternal Daughter avec Tilda Swinton. Et bah, en effet, c'est le retour de Greta Gerwig qui vient de sortir, il y a quelques jours, le trailer de sa fameuse adaptation de Barbie. Et en fait, moi, ce qui me fait juste plaisir, c'est de voir que... parce que peu importe ce qu'on pense du travail de Greta Gerwig, elle a réussi à créer suffisamment d'engouement avec l'arrivée de son futur film comme un trailer de Mission Impossible. Son trailer est arrivé en top sur Twitter, etc. Et ça m'enthousiasme beaucoup.
Et juste pour terminer par rapport à Johanna Hogg, je voudrais juste préciser qu'en 2023, pour accompagner The Eternal Daughter, Condor a annoncé qu'ils allaient ressortir ses trois premiers longs, qui sont très peu connus, à savoir Unrelated, Archipelago et Exhibition, qui sont trois films méconnus et qui sont à voir absolument.
Voilà, dites-nous également ce que vous attendez ou ce que vous redoutez le plus pour cette année 2023 dans les commentaires. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir supportés. On espère que vous étiez bien. En tout cas, je vous promets que personne n'a été blessé pendant le tournage, mais on va pouvoir commencer maintenant. Allez, bye les amis, et gloire à Satan.
Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé.
Au quatrième stop, il sera exactement 0h13.
Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée!
Oh bah dis donc, t'es bien pressé toi ce soir!
Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester! Allez-vous-en!
Arrivederci! Et buon viaggio!
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.